Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire que Jésus venait d'être crucifié. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Et lui répondirent « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils retrouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. On connaît tous un peu cette histoire de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Hein. Jésus venait d'être crucifié il y a 3 jours et... comme lui-même l'avait annoncé, mais bon, les gens n'avaient pas vraiment fait attention à ce moment-là, j'ai l'impression, et après la crucifixion, ben, vous imaginez, quand vous avez porté tous vos espoirs dans une personne qui est là morte, ben, vous déprimez, hein, vous n'êtes pas heureux, et il y a un grand désespoir qui est entré dans la vie de ses disciples en tout cas, et chez les autres aussi, et ben, chacun est rentré chez eux, tout simplement, hein, voilà, c'est fini. Jésus est venu un moment, et puis maintenant c'est fini. Et le doute, certainement, a dû les entrer dans leur cœur. Et ça nous rappelle, nous aussi, qu'on a des fois des chemins de doute, à moins que vous soyez des hommes pleins et des femmes pleins de foi, sans jamais aucun doute. Ça vous arrive ? On doute tous à un moment dans notre vie, et surtout quand on a des épreuves ou des difficultés, et on a des doutes. Et eux aussi avaient des doutes, mais là, c'était d'une autre nature encore. Et le même jour... ben, le Seigneur venait de ressusciter et il va rejoindre ses deux disciples qui étaient là complètement déprimés. Formidable de savoir que quand on est déprimé, ben, le Seigneur n'est pas loin, quelque part. Bon, peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, il sait comment on va. La première chose qu'on peut apprendre dans ce texte, c'est qu'il y a un danger de vivre avec une foi rudimentaire, avec une foi qui n'est pas complète, avec une foi un peu à tout vent, hein. On a là deux disciples qui sont déprimés, alors on va un peu les présenter, on sait qu'ils étaient du village d'Emmaüs. Alors Emmaüs signifie « bain chaud », c'est joli pour un prénom ça d'enfant, non Emmaüs. Ou alors « peuple méprisé », c'est déjà moins drôle. C'est un village qui est assez difficile à localiser, hein. il y aurait beaucoup d'hypothèses qui existent, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il était à 60 stades, nous dit la Bible, c'est-à-dire à 11 kilomètres, donc ses disciples étaient prêts à faire 11 kilomètres pour rentrer chez eux à pied. Et nous on se plaint quand notre voiture... mais à l'époque, on marchait. Il y avait deux disciples, nous dit la Bible. Alors, deux disciples d'entre eux qui se rendaient à Emmaüs. Et peut-être que c'est là-bas qu'ils avaient leur demeure. On n'est pas vraiment sûr non plus à 100%. Ils n'étaient pas des apôtres, puisqu'on voulait voir ensuite rejoindre les 12, enfin les 11 apôtres. Donc c'était des disciples comme vous et moi. Le premier disciple, on sait son nom, il s'appelle Cléopas. C'est un joli nom aussi. Alors il peut être confondu avec un autre nom que vous avez peut-être vu dans la Bible, qui est un peu de l'hébreu, c'est Clopas. Il y en a qui pensent que c'est le même, il y en a qui pensent que c'est pas le même. On va pas se battre ce matin. La tradition pense que ça serait le frère carrément de Joseph, hein, l'époux de Marie, mère de Jésus, et donc par conséquent l'oncle de Jésus et de Jacques. On verra bien au ciel qui c'était vraiment. Le deuxième disciple, on n'a pas le nom, c'est bizarre. Il y en a qui pensent que ça a un certain Théophylacte. Ça, c'est un joli nom pour un enfant, hein. Mon petit Théophylacte. Ou alors d'autres pensent que c'était Luc lui-même, tout simplement, parce que des fois, les auteurs ne se nomment pas dans les écrits. C'est pareil dans les actes et ailleurs. D'autres pensent qu'il s'agissait tout simplement de la femme de Cléopas. Vous faites votre choix. Moi, j'ai pas fait mon choix, et puis c'est pas vraiment le plus important. Mais c'est juste pour dire qu'il existe des idées là-dessus. Mais en tout cas, les deux étaient absolument tristes. Et l'image du fait qu'ils s'éloignent de Jérusalem, ça ajoute un peu au côté tragique de l'histoire. Ils s'éloignent, en fait, de là où était Jésus, etc. Et ils partent dans leur tristesse. Et c'est intéressant parce que Jésus va les rejoindre. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dit, mais vous êtes tristes. C'est drôle que Dieu remarque ces choses. Enfin, que Jésus remarque ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il me connaît bien. Et quand vous êtes triste, le Seigneur le sait, comme il a su à ce moment-là pour ces hommes et cette femme, la femme de Cléopas. Hein. Mais leur éloignement de Jérusalem va démontrer aussi qu'ils attendaient absolument plus rien de Jésus. C'est fini. On a fait la fête pendant 3 ans et demi environ de ministère de Jésus, mais maintenant c'est fini. Bon, ben on rentre tranquillement chez nous. Ça va être quelque chose quand même dans leur cœur à ce moment-là, hein, d'avoir un doute profond et se dire il n'y a vraiment plus rien avec lui. Et les autres disciples, on le sait ailleurs dans d'autres textes, ben chacun va retourner à ses activités. Alors que le Seigneur leur avait dit hein, d'aller annoncer. Mais ils vont tous retourner à leurs activités. Un désespoir peut-être qui est nourri par une mauvaise compréhension aussi de Dieu. Ils discutaient, le texte nous dit, entre eux. Alors ils parlaient, ça veut dire qu'ils s'entretenaient, ils discutaient. Le mot, ça veut dire qu'ils essayaient d'examiner, ils se disputaient, mais pas dans le sens où on se tape sur la tête, mais où vraiment, il y a une discussion là intense entre les deux. Et ils étaient passionnés, parce que tout ce que Jésus avait fait jusqu'à présent, c'était impressionnant quand même. Et donc ils discutaient de tout ça. En même temps, je pense qu'ils essayaient de se consoler, les pauvres. Mais le problème, c'est que dans leur tête et dans leur foi, il n'y avait pas la doctrine de la Bible. Et en fait, ils baptisaient leur foi sur une fausse pensée. Et cette fausse pensée, ben, vous voyez qu'elle a un impact sur leur vie. Pour eux, Jésus devait venir pour éloigner et chasser les Romains, qui avaient envahi à ce moment-là le peuple d'Israël, et les chasser loin, et devenir le roi. Et comme eux n'avaient pas compris toute la parole, ben forcément, mauvaise pensée, mauvaise doctrine, une foi qui est fragile, une foi finalement qui impacte sur leur propre vie, et finalement, ben, voyez ce que ça donne. Ils étaient malheureux, parce qu'ils n'avaient pas tout compris. La foi sans doctrine égare le croyant. Ça fait 3 jours qu'ils étaient là, et ils se posaient des questions, mais on se demande vraiment qu'est-ce qu'ils attendaient en fait. Parce que de toute façon, ils n'attendaient plus rien. Eux espéraient justement que Jésus vienne balayer les Romains. Ça aurait été bien pour eux, quelque part. Mais là, il est mort sur une croix. Et celui qui devait nous délivrer des Romains, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? On repart dans la tristesse et dans le cœur. Mais le problème, c'est qu'ils interpréteraient mal la parole de Dieu. Vous voyez, des fois, on peut lire la Bible et se tromper et bâtir. Et bien, c'est toute la nation qui avait bâti cette idée que le Messie allait chasser le Romain. Et bien, ils se sont trompés. Ils n'avaient peut-être pas de doctrine. Est-ce qu'ils lisaient la parole à l'époque, hein, c'était l'Ancien Testament. Mais sans doctrine, sans connaître la Bible en entier, sans l'étudier, et bien, on peut être emporté à tout vent de doctrine. Il ne s'agit pas d'être des docteurs non plus, hein, on s'entend bien. Il faut quand même un jour la lire en entier pour savoir ce qu'elle dit, hein, plutôt que prendre à droite et à gauche, comme font certains. Mais eux n'avaient pas compris tout cela. Et à cause de cela, ça a un impact sur leur vie, une façon de vivre, et tous ces disciples, ben, ils ont tout lâché quelque part. Ils n'espéraient même pas que Jésus ressuscite. Pourtant, il leur avait dit, hein, plusieurs fois. Leçon pour nous, aujourd'hui, ben, parfois nos espoirs en Christ s'écroulent. On est découragé avec Dieu. Mais est-ce que des fois, on a bien bâti notre foi, hein? Des fois, on ne voit pas Jésus agir. On dit, ben, il m'a abandonné. Malheureux, c'est toujours moi que ça arrive. On est comme ça, hein, généralement. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'agit pas? Les silences de Dieu sont l'action de Dieu aussi, des fois. Alors pour nous, ça paraît un peu curieux, parce que nous, on aimerait que les problèmes se règlent tout de suite, au moment où nous avons décidé. Hein, Dieu, fais ce que je te dis.
C'est ça, quelque part.
Mais Dieu, des fois, laisse le temps faire son travail aussi. Et ça ne veut pas dire que Jésus n'agit pas. Comme là, pendant ces 3 jours, les disciples disaient, ben voilà, on a perdu le Messie, ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dieu agit, même quand des fois, on ne voit rien. Et puis, une autre leçon pour nous, c'est que parfois, on est désespéré, parfois, on a de faux espoirs en tant que chrétien. Et peut-être, parfois, ça vient simplement d'un manque de connaissance de la parole de Dieu aussi. Et on construit notre vie, on fait des projets peut-être, et après on se plante, et un jour on apprend que dans la Bible, c'était pas nécessaire de le faire, ou il y avait une autre manière de le faire. Et c'est bien dommage qu'on soit triste des fois, tout simplement par manque de connaissance de la parole de Dieu. Et quand on voit ses disciples tout tristes, ça avait un impact sur eux. Ça n'a pas qu'un impact, on va dire, sur la foi, mais ça a un impact sur le corps. Ils étaient tristes. Hein. Vous vous souvenez la dernière fois que vous étiez tristes? C'est ça que ça faisait chez eux, parce qu'ils n'avaient pas tout compris. Notre foi, elle n'est pas bâtie sur des sentiments ou des expériences, même si on va en faire quelques-uns. Mais la foi, elle se bâtit sur la parole de Dieu, uniquement. Autrement, si vous voulez vivre que par vos expériences, vos sentiments, vous allez être vite déçu. Ça, c'est une foi extrêmement fragile. Quelqu'un qui vit comme ça ne va pas tenir longtemps. Mais quelqu'un qui connaît la parole et qui s'appuie sur cette parole, qui bâtit la foi sur cette parole, lui, il sait qui est Dieu. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour moi. Et à ce moment-là, sa foi va grandir. Elle ne sera pas parfaite, elle ne sera pas au top, mais elle sera déjà moins fragile que l'autre. Donc on a besoin de connaître cette parole. Et c'était le problème de ces deux disciples à ce moment-là, c'est qu'ils n'avaient pas tout compris. Il n'y a pas que hein. Tout le monde, personne n'avait rien compris à ce moment-là. Deuxième chose que le texte nous apprend, c'est que, on l'a dit, la foi doit se bâtir sur la parole seule. Et là, ces disciples vont être en face d'eux-mêmes, quelque part, et Jésus va faire un espèce de bilan de leur foi, hein. Et alors Jésus va les rejoindre alors qu'ils étaient en train de s'entretenir, et puis il leur demande « Mais de quoi vous discutez ?» Comme si Jésus n'avait pas, quelque part. Mais il leur pose la question parce que ce qu'il veut là, peut-être, le Seigneur, c'est que ces gens s'expliquent. Nous, des fois, on reçoit quelqu'un et qui est peut-être dans la difficulté et on a envie de lui donner tout de suite la solution, hein, alors qu'il faut des fois écouter, ça peut durer une heure des fois, dans les fois de pasteur pour connaître ça, et ensuite seulement donner les solutions et expliquer cela. Et là, il les laisse tout simplement parler. Ils savaient ce qu'il y avait dans leur tête. Hein. Intéressant, verset 17, il est dit aussi que là, ils se sont arrêtés. Il faut des fois s'arrêter aussi dans notre vie pour pouvoir réfléchir et discuter un peu avec le Seigneur, on pourrait dire, mais surtout lire la Bible. Hein. La Bible nous dit qu'ils avaient l'air attristés, ils étaient vraiment confus. Et Jésus avait certainement plein de compassion pour eux à ce moment-là. Et ils étaient surtout étonnés parce que ce monsieur qu'ils avaient en face de eux, il ne savait pas ce qu'ils étaient passés à Jérusalem. Quand même, hein. Ça fait 3 jours qu'il est mort, et il y a eu toute une ville qui était témoin de la mort de Jésus-Christ. Hein. Aujourd'hui, on est dit, Jésus n'est peut-être pas mort, mais attendez, il y avait toute la ville qui était au courant, hein, et même peut-être au-delà. Mais la Bible nous dit, leurs yeux étaient empêchés de voir Jésus. Alors l'expression, elle n'est pas souvent employée, leurs yeux étaient peut-être retenus, ou alors tout simplement, ils ne reconnaissaient pas qui était Jésus à ce moment-là. Et pourtant, ils l'avaient déjà rencontré. Hein. Peut-être que aussi, comme les disciples ne croyaient pas à la résurrection, le monsieur qui était en face d'eux, ça ne pouvait pas être Jésus ressuscité, puisqu'ils y croyaient pas, ou du moins ils y réfléchissaient peut-être pas. Mais Marc 16, 12 nous dit, après cela, parce que ça parle du même épisode là, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Jésus-Christ, quand il est ressuscité, avait une autre forme. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas reconnu à ce moment-là. D'autres pensent que c'était l'action divine de Dieu aussi, hein, un commentaire qui dit ça, et que Dieu a permis qu'ils ne le reconnaissent pas à ce moment-là, tout simplement parce que Jésus ne voulait pas être reconnu, on va dire, de face à face. Mais ce qu'il voulait, c'est simplement qu'il soit persuadé par les Écritures qu'il est ressuscité. Et là, c'est deux façons de vivre différentes. Hein. Il y en a qui aiment bien vivre par la vue et les sens, mais le problème, c'est que vous ne pourrez jamais bâtir votre foi avec les sens ou la vue. Moi, je n'ai jamais vu Jésus, mais je crois que Jésus est vivant. Je n'ai pas besoin de le voir. Je me réjouis qu'on le verra un jour. Hein. Là, enfin, on fera peut-être moins les fiers qu'on sera en face de lui, mais on le verra un jour. Hein. Mais si je bâtis ma foi sur mes sens, sur ce que je ressens, si j'ai besoin de voir Jésus, de faire des rêves ou je ne sais pas quoi, là, vous ne bâtissez pas la foi comme la Bible, et surtout le Seigneur, parce que c'est lui qui va le dire. À ce moment-là, il ne veut pas de cette foi qui s'appuie sur les sentiments. Il veut une foi, et il va l'expliquer, bâtie sur la connaissance de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien. Mais ce que vous ressentez, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. C'est ça, surtout. Mais si je connais la parole de Dieu et que je ressens quelque chose qui est dans la parole de Dieu, alors, oui, je peux dire, ça vient du Saint-Esprit.
Amen.
Amen. Jésus va leur montrer et nous montre aussi, je pense, quelque part, les causes de cette foi qui était fragile à ce moment-là. On l'a dit, il les laisse d'abord parler pour comprendre leurs problèmes. Et moi, je trouve ça un peu ironique ou drôle parce que Jésus écoute des gens qui parlent de sa vie à lui. Il lui explique sa vie, en fait. Et Jésus les écoute tranquillement en train d'expliquer sa vie. C'est rigolo quand on y réfléchit un petit peu. Hein. Mais bon, il les a laissés faire parce qu'il les aime certainement et il voulait entendre ce qu'ils pensaient. Donc, ils vont faire une description de ce Messie hein, qui était pour eux un prophète puissant en œuvre, en parole devant Dieu et devant le peuple, comme ils disent. Mais la tragédie est arrivée. Les principaux sacrificateurs et les magistrats, c'est marrant, vous savez, ces gens-là, ils ont tué Jésus. Eux, ils ne savent pas qu'à cause de leur péché, ils ont aussi mis Jésus en croix. Mais là, ils accusaient à ce moment-là les religieux. Manque de connaissance, tout simplement. Et ils partageront aussi l'espoir que Jésus va délivrer Israël, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais bon, ben voilà, monsieur, ben, ce Jésus, il est mort. On ne peut plus rien faire maintenant. Et ils ont entendu dire aussi, hein, comme ils disent, que le corps de Jésus ne serait plus dans la tombe, il aurait disparu. Et qu'il serait même peut-être vivant, mais bon, ça c'est des ouï-dire. Voilà où ils en étaient dans leur foi, on va dire, dans leur compréhension de tout ce qui était passé. On ne va pas leur jeter la pierre, parce qu'à mon avis, nous on a le Nouveau Testament. Eux, ils n'avaient pas tout ça. Et on aurait été exactement pareil, voire peut-être pire encore que eux. Mais voilà, ils avaient une foi qui était là, fragile, avec un manque de doctrine, tout simplement. Mais le Seigneur est bon, et il va leur montrer leur manque de foi, et il va quand même faire un reproche. Hein, il leur dit « Homme sans intelligence ». Si moi je viens vous voir comme ça, je vous dis « Homme sans intelligence, vous faites quoi ?» Paf, dans la figure, hein, comment tu me parles? C'est profond ce qu'il est en train de dire quand même à ses disciples-là, quelque part. Ça veut dire être dépourvu de sens, insensé, carrément, en grec. Donc, et c'est vrai, quelque part, puisque ces gens voulaient avoir la foi, mais ils la construisaient sur quelque chose qui n'était pas solide, ou faux même. Il dit « Vous avez le cœur qui est lent ». Le mot veut dire ennuyeux, absorbé dans ses pensées et même stupide. Votre cœur est stupide. Il est absorbé par tellement de pensées au lieu de se concentrer sur ce qui est vrai. Il est lent à croire les prophètes, c'est-à-dire à ce moment-là, c'était l'Ancien Testament, la parole. Ils avaient du mal à comprendre ces choses-là. Alors on ne sait pas pourquoi, mais peut-être qu'ils manquaient d'études, peut-être de lecture, de connaissances, je ne sais pas, vous choisissez. En tout cas, ils ne savaient pas ce qui devait arriver réellement au Messie. Et personne ne comprenait cela. Et c'est ce qui arrive quand on essaie d'expliquer Dieu sans la parole. Beaucoup de gens essaient de vous parler de Dieu, mais n'ont jamais lu la Bible. Et alors, ça donne des trucs assez bizarroïdes. Il y a des équinoxes, des machins et compagnie. Hein, tout se mélange à un moment. On peut expliquer Dieu, mais là, ce n'est pas le vrai Dieu que vous expliquerez. Et le Seigneur lui-même dit, il faut expliquer Dieu à partir de la parole. Pas avec mes sentiments, avec mon imagination. Et lui, il va leur expliquer. Et lui, il ne va pas dire, voilà, je ressens, je pense que... Non, il dit, à partir de Moïse, il revient tout au début du Pentateuque, hein, Genèse, Exode, Lévitique, etc., et il va expliquer tout cela. Alors, il ne nous a pas donné toute l'explication, mais s'il part de Moïse, il rappelle qu'à l'époque, il faisait des sacrifices d'animaux, hein, qui étaient quelque part en préfiguration du sacrifice parfait qui était Jésus-Christ. Hein. L'agneau, les animaux sacrifiés ne couvraient seulement que le péché, mais ils ne pouvaient pas le pardonner. C'était un temps que Dieu a décidé que ça soit comme ça, mais c'était en vue de l'agneau qui allait arriver, Jésus-Christ, qui lui est mort parce qu'il était parfait et qui peut nous pardonner nos péchés. Et il va partir vers les prophètes, et tous ces prophètes, si vous prenez le temps une fois de lire Jérémie, Ézéchiel et tout ça, tous ces prophètes annonçaient le Messie. Ils annonçaient non seulement la venue, la première venue de Jésus en tant que Messie, et quand vous lisez Ésaïe 53, alors les Juifs n'aiment pas lire ce passage-là, mais c'est très clair que cet agneau-là va être sacrifié, hein, et qu'il devait mourir. Surtout, ne donnez pas ça à lire à un Juif, il ne veut pas le lire. J'avais un prof à l'Institut qui faisait de l'hébreu, et il a demandé une fois, qui c'est alors? De qui vous parlez là? Vous connaissez Ésaïe 53, on parle de Jésus, hein, qui est en train de se faire sacrifier. Mais voilà, tous ces prophètes annonçaient le Christ, le libérateur, mais pas le libérateur des Romains. Le libérateur du péché. Et ça, ils n'avaient pas compris à ce moment-là. Et ils annoncent la croix. Hein. Vous lisez Daniel 9, vous pouvez même calculer le nombre d'années pour arriver jusqu'au moment de la croix. Ils avaient tous ces livres-là, mais ils ne connaissaient pas, peut-être, ou ils n'ont pas bien interprété. Vous savez, moi je suis un peu jaloux d'eux, parce que c'est des hommes qui avaient un rare privilège, c'est d'entendre la parole incarnée expliquer la parole écrite. Jésus leur expliquait, lui qui est la parole incarnée, ce qu'était la parole. Ce serait bien le dimanche matin d'avoir Jésus. Non, moi, je suis prêt à m'asseoir tout de suite. Hein, je vais appeler ça. Voilà, le repos. Mais Jésus leur expliquait la parole et ça devait être vraiment extraordinaire. D'ailleurs, ils vont être complètement bouillants dans leur cœur après. Hein. Mais Jésus leur montre surtout que cette parole et cet Ancien Testament, à ce moment-là, étaient christocentriques. Christ est le centre de tout le message de la Bible. Tout converge vers cette croix, vers Jésus-Christ. Mais ça, ils ne l'avaient pas compris, ou que partiellement. Et l'Ancien Testament disait que Christ devait souffrir, que c'était nécessaire pour que nous puissions être sauvés. Alors vous voyez, on peut lire des fois la Bible en long et en large, la connaître par cœur comme ces gens-là, mais ne pas comprendre le message, ne pas se laisser éclairer par Dieu. Et c'est bien triste. Jésus devait entrer dans la gloire, et cette résurrection qui allait avoir lieu 3 jours après, c'était justement cette gloire dans laquelle il allait entrer. J'imagine quand même pendant 11 kilomètres, il faut 2 heures, 3 heures peut-être pour les plus lents, 3 heures où Jésus vous expliquait la parole. C'est mieux qu'un institut biblique, ça. Ça devait être intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas le récit et le condensé en MP3, ou je ne sais pas, mais on aurait pu faire à ce moment-là. Mais il y a des leçons pour nous. Autrefois, les yeux ou le cœur, quand on n'était pas chrétien, étaient aussi empêchés de voir. On vous a parlé de Jésus, peut-être, vous avez rencontré une Bible, vous avez vu une émission, et puis, laissez-moi avec ces bêtises. Nos cœurs étaient aussi empêchés de voir, et nos yeux aussi étaient empêchés de voir. Mais c'est seulement parce que le Seigneur, à un moment, s'est approché de nous, au travers de sa parole, que, si on est devenu chrétien, évidemment, on a recouvré la vue, et on sait que Jésus existe, on sait qu'il est vivant, on sait qu'il nous a pardonné, on sait qu'il nous a sauvés. Mais combien nous avons besoin que Jésus s'approche de nous pour cela ? On dit souvent, oui, j'ai rencontré le Seigneur. C'est complètement faux. Il m'a rencontré. Même si je comprends l'idée quelque part, mais c'est Jésus qui s'est approché de moi à un moment pour apprendre à le connaître, pour apprendre à le comprendre, et à la fin, si je veux bien me convertir, naître de nouveau. Et c'est important, il y a quelque chose qu'il faut noter, c'est que Jésus a dit, il a expliqué la parole de Moïse au prophète. Il est en train de nous dire à nous que c'est toute la parole entière qui va forger ma conviction. Ce n'est pas un passage, ce n'est pas 2 versets. C'est normalement toute la parole. Ce n'est pas moi qui le dis cette fois, comme ça au moins vous ne pourrez pas me râler après. C'est Jésus qui le dit. Il faut connaître toute la parole en entier. Deutéronome, Lévitique. C'est bon, Lévitique, non ? Connaître tous les psaumes par cœur, etc. Il ne s'agit pas de connaître par cœur, mais au moins d'avoir lu une fois, d'en connaître au moins le contenu, l'idée quelque part, parce qu'on ne peut pas tout retenir par cœur, on est bien d'accord. Mais le Seigneur nous dit que c'est dans toute la parole que l'on va se forger des convictions. Beaucoup de gens ont des convictions dans leur vie chrétienne, en sont tristes, parce qu'ils deviennent légalistes, parce qu'ils n'ont pas lu toute la parole, ils ont occulté des hommes, peut-être tout simplement, ou leurs sentiments, et finalement c'est une vie triste de chrétiens qu'ils ont, alors que Jésus veut nous offrir une vie pleine de joie, de paix normalement. Mais à cause de notre manque de conviction des fois, on se met des fardeaux que Dieu lui-même ne met pas sur nos épaules. Une foi bâtie sur toute la parole, nous dit Jésus, offre des convictions et une véritable espérance aussi. Et eux n'avaient pas cette espérance, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas toute la parole, ou en tout cas n'avaient pas compris toute cette parole. Et une troisième chose qu'on peut apprendre, c'est que cette foi, alors je ne savais pas comment choisir le mot, mais la joie d'une foi intégrale, c'est peut-être un peu trop intégriste, une foi exhaustive, qui veut dire quelque chose de complet plutôt, une foi qui est complète, on va plutôt aller vers ce mot-là, ça produit la joie, normalement. Et on va voir ce que ça va donner chez ses disciples. Donc ils vont arriver près d'Emmaüs et ils vont inviter Jésus à souper avec eux. C'était le soir et lui, il semblait vouloir aller plus loin et les laisser aller, mais ils l'ont invité à venir chez eux. Et le mot « ils le pressèrent », en fait, en grec, ça veut dire « ils le retinrent avec force ». Viens avec nous. Mais ils étaient tellement passionnés par ce qu'ils entendaient, à mon avis. C'est comme le dimanche à midi, après-midi, après le culte. Vous avez envie de rester, d'écouter encore la parole et tout ça, pas rentrer manger. Personne n'a retenu, Non, mais là, je pense que c'était quand même plus joli et meilleur, à mon avis. Mais il va venir quand même dans leur maison parce qu'ils avaient soif d'en savoir beaucoup plus. Et durant le repas, Jésus va rompre le pain. Normalement, c'était le père de famille qui devait faire cela. Et là, ils ont laissé la place à Jésus de rompre ce pain. Certainement, c'est parce qu'il avait une autorité avec son enseignement-là. Ils étaient ébahis. Donc, ils l'ont laissé faire ce rôle-là. Et Jésus, c'est formidable. Il est ressuscité. Et il va rendre grâce à Dieu pour ce pain. Nous, on mange, on n'est que des petits hommes, petites femmes, et des fois, on oublie simplement de rendre grâce. Mais honnêtement, pas bien ces années, on ne pas, de rendre vraiment grâce à Dieu pour le pain qu'il avait à ce moment-là. Jésus ressuscité dit cela à son père. C'est fou quand même quand on y réfléchit un peu. Et va rompre ce pain, Combien nous aussi on devrait être reconnaissants, et c'est ce que le Seigneur nous apprend là, pour tout ce qu'il nous donne, ou pas. J'aime pas le ou pas, mais je suis obligé de le rajouter, ou pas. Mais ce ou pas nous dit déjà qu'on a pas mal de choses, quelque part. Alors, certains pensent qu'il s'agissait là de la scène, mais beaucoup de commentateurs ne sont pas d'accord, c'est tout simplement un repas ordinaire qu'ils ont partagé ensemble. Et à ce moment-là, les yeux des disciples vont s'ouvrir. Ça a dû faire un choc. Oh, c'est Jésus. Ils l'ont reconnu d'un seul coup. Il était temps qu'ils reconnaissent. Et pour nous, il faut parfois beaucoup de temps aussi pour accepter Jésus dans notre vie. D'abord, pour l'accepter comme sauveur, mais encore plus de temps pour l'accepter comme Seigneur. Beaucoup de gens sont sauvés, mais bon, Jésus, c'est une option dans la vie. Il est là pour m'aider quand ça ne va pas, mais j'oublie le terme Seigneur dans lequel je suis censé aussi obéir, suivre et agir selon ce qu'il me demande de faire dans sa parole. Mais le reconnaître, alors certains pensent qu'ils auraient vu peut-être, parce qu'il a rompu le pain, les clous dans ses mains, je ne sais pas, c'est une belle hypothèse, peut-être c'était des gestes habituels qu'il avait à l'époque et qu'eux avaient remarqué, on ne sait pas, mais en tout cas la Bible nous dit qu'ils l'ont reconnu, et au moment où ils l'ont reconnu, il disparaît. Ça c'est frustrant, non? Passer 3 heures avec lui, vous ne savez pas qui c'est, et au moment où vous reconnaissez qui il est, il disparaît. Le prodige ici, ce n'est pas la disparition, c'est plutôt qu'il leur soit apparu. Ça veut dire qu'il soit ressuscité. Vous avez déjà vu quelqu'un ressuscité, vous? Pas moi, en tout cas. C'est ça, le prodige. Mais bon, le fait qu'il disparaisse aussi, c'est pour ça que moi, je veux avoir ce corps rapidement à la peau. Aller à droite et à gauche. La relation avec Jésus, c'est ce qu'il est en train de leur dire maintenant, va être complètement différente. J'ai passé 3 ans et des poussières avec vous à se voir, à communiquer. Maintenant, on va avoir une communion invisible. Une communion qui va être spirituelle. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement la foi. Jésus ne va plus apparaître. Il va encore le faire quelques fois avec les disciples. Mais maintenant, la relation qu'il veut avec le croyant, c'est une relation spirituelle, avec la foi. Et c'est là où, justement, la foi, elle doit être complète. C'est tellement important, sinon ma relation avec Dieu va être incomplète. Et donc, après le désespoir, on imagine un peu le progrès de ces gens complètement démoralisés. Vous voyez, il n'y a pas besoin de psychologue toujours, il suffit de lire la parole de Dieu ou laisser le Seigneur un peu travailler dans notre cœur. Après le désespoir, il y a la joie. Et la Bible nous dit leur cœur brûlait à cause de la parole de Dieu. Votre cœur brûle à cause de la parole de Dieu. Le dimanche matin, vous êtes pressé d'aller à l'église, tellement vous dites, ah, j'ai envie d'apprendre. Je fais un bide, Mais on devrait avoir cette soif. On n'exagère pas non plus. Mais est-ce que j'ai soif de la parole de Dieu? Est-ce que j'ai envie de la connaître pour mieux connaître qui est Dieu, Jésus-Christ, et tout ce qu'il veut nous apprendre? Les chrétiens, là, étaient bouillants. Enfin, on ne va pas les appeler chrétiens parce qu'il n'y avait pas encore l'Église, mais ses disciples étaient bouillants pour Jésus et pour son service-là. Voilà. Maintenant, ils avaient tout compris. Et jusqu'à présent, ces Écritures leur étaient fermées dans le cœur, mais là, maintenant, elles sont devenues compréhensibles parce qu'ils les ont étudiées. On lit la Bible des fois, c'est vrai que des fois c'est compliqué, mais on peut l'étudier. Là, le Seigneur leur avait expliqué, maintenant le Seigneur a décidé qu'il y a d'autres personnes qui le fassent, mais quand on explique les choses, et quand on commence à les comprendre, ah, là ça commence à produire quelque chose. Mais étudier la Bible, déjà la lire c'est compliqué, mais alors l'étudier. Alors là, c'est pas évident, mais eux en tout cas ont pris le temps de l'étudier, je pense qu'ils vont le faire même plus après, mais ça les a rendus heureux. Vous êtes heureux? J'espère bien, parce que sinon vous êtes bizarre. Mais ouais, prenez le temps d'étudier la Bible, pas de la lire seulement, l'étudier. Alors on ne peut pas le faire tous les jours, je sais qu'on travaille, mais une fois par semaine on se prend une heure, prendre un commentaire ou un passage, et puis essayer de comprendre ces choses-là. On le fait le vendredi, mais c'est bien aussi le travail personnel des fois, d'étudier la parole de Dieu. Et d'un coup, vous allez voir que vous allez comprendre certaines choses. Alors c'est vrai que jeunes chrétiens, on lit la Bible, on survole parce que c'est tellement de choses et d'informations, mais au bout de 20 ans, on s'enfonce progressivement dans la Bible. Et des fois, même moi, je retombe des fois sur des textes et ah tiens, si je viens comprendre. Après 20 ans. Ben oui. C'est ça qui est formidable. Et ça rend heureux. Et donc, ces disciples complètement bouillants, pleins de joie, ils vont repartir de nuit. Juste avant, ils avaient dit aux voyageurs qu'ils avaient rencontrés, attention, c'est dangereux, mais eux, ils repartent. Ils n'écoutent pas les conseils qu'ils donnent aux autres. C'est marrant. Mais bon, ils repartent de nuit, 11 km, rebelote. Ils retournent à Jérusalem. La nuit. Mais ça, c'était l'effet Jésus, l'effet ressuscité, l'effet parole de Dieu dans leur vie. Et ils vont retourner voir les 11, comme il est dit. Alors les 11, pourquoi? Il y en a un qui s'est pendu entre-temps, Judas. C'est pour ça qu'il n'était plus que 11 à ce moment-là. D'autres disciples, on voit dans d'autres textes, étaient présents, sauf Thomas à ce moment-là. Et quand ils vont venir, ils vont les accueillir avec joie, parce qu'entre-temps, Jésus était apparu à Simon-Pierre, et eux avaient compris que Jésus était ressuscité. Et donc il y a deux groupes, là, on va dire, les deux disciples sur Emmaüs, qui savaient maintenant que Jésus était ressuscité, et les onze, et peut-être plus, qui étaient là, et les deux vont corroborer en fait le témoignage. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait plus de 500 témoins, et chacun, parce que Jésus venait d'une manière ou d'une autre, chacun savait maintenant que Jésus est ressuscité. Vous imaginez la joie qu'il y avait dans leur vie à ce moment-là. Alors nous, la résurrection, hein, fait 2000 ans qu'on nous bassine avec ça, est-ce que ça nous rend heureux? On le sait, voilà, c'est Pâques, allez, on va faire un repas familial, et puis Jésus est ressuscité, amen. Puis on va partir au boulot, hein, c'est lundi matin. Et vous me regardez, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Ça doit nous rendre heureux, savoir que Jésus est ressuscité, parce qu'on l'a dit la semaine dernière, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, complètement vaine. Et moi-même non plus, je ne ressusciterai pas. Mais Jésus est vraiment ressuscité. C'est la joie. Ça veut dire qu'il est vivant aujourd'hui. Ça veut dire qu'il peut m'aider, qu'il peut m'accompagner dans mes difficultés, dans mes épreuves, etc. Et Jésus est vivant aujourd'hui. C'est formidable. Pour nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Ben, que notre espérance vient de la connaissance de Christ. Et elle se trouve seulement dans la parole de Dieu. J'aimerais vous le dire que ça se fait autrement, mais c'est faux. Si je connais que le psaume 23, mon espérance, elle est vraiment minime. Si je connais le psaume 24, attention, là, elle est un petit peu plus grande. Mais si vous connaissez toute la Bible, alors là, vous bâtissez une véritable espérance et qui produit aussi quelque chose en nous, la joie de savoir où on va aller. On n'a pas besoin de voir Jésus pour croire. Il le dira à un moment à Thomas. On n'a pas besoin de Jésus pour croire. On va vivre maintenant cette relation avec lui par la foi. On n'a pas besoin de voir Jésus pour espérer non plus, puisqu'il a donné tout son message dans la parole de Dieu. Notez aussi le contraste, hein, ces deux disciples sont intéressants pour moi, parce qu'on voit le contraste entre ceux qui sont dans le désespoir parce qu'ils essaient de raisonner Dieu, de réfléchir Dieu, et n'y arriveront jamais, et ceux qui vont tout simplement plonger le regard dans la parole de Dieu, et qui vont comprendre qui est Jésus, qui est Dieu, etc. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, nous dit Romains 11. On peut raisonner dans notre logique, calculer qui est Dieu, ça ne marchera jamais. Lisez la Bible. Et c'est la Bible qui offre la foi. Après, évidemment, il y a la logique qui vient aussi derrière. Mais ce n'est pas comme cela qu'on découvre la foi. Donc, si vous voulez être heureux, lisez la Bible. Moi, je ne peux pas dire ça autrement. Et quand on a connu la Bible, quand on a connu le message de la Bible, alors la joie pour les disciples, ben, va être grande, tout simplement, parce qu'ils savent que non seulement Jésus est mort pour leurs péchés, qu'ils ont la possibilité, la preuve de la salut, puisqu'on est justifié, comme on l'a vu dans Romains tout à l'heure, mais en plus, Jésus est ressuscité, et ça, c'est extraordinaire dans la vie d'un chrétien de le savoir. Et comme ces disciples, ils ne sont pas restés allumer la télé chez eux tranquillement à Emmaüs, ils ont été prêts à faire encore 11 kilomètres pour aller annoncer cette bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre. Aujourd'hui, on a les voitures, ça va. C'est pratique. Mais il y avait une urgence à ce moment-là de dire ces choses-là parce qu'ils avaient découvert que Jésus était ressuscité. Est-ce que c'est urgent dans notre vie d'annoncer la bonne nouvelle? Oh, quand on se convertit, on étouffe tout flamme. Hein. On a envie de parler à Dieu, à tout le monde de Dieu. Et 30 ans plus tard, ouais, je suis un vieux chrétien maintenant. Hein. Moi, je suis bientôt à la retraite. Enfin, à la retraite chrétienne, hein, s'il y en a une d'ailleurs. On n'a plus trop envie d'annoncer. Puis c'est plus tellement urgent. Hein. Allez les jeunes, hein, allez-y. Non. Je pense que chacun d'entre nous, on devrait encore être plein de joie de savoir que Jésus est ressuscité et avec cette urgence d'annoncer la bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre. Ce n'est pas tous les jours, mais Dieu permet des fois qu'on rencontre des gens avec qui on peut parler. Et curieusement, quand on demande le matin au Seigneur, dans la prière, de rencontrer quelqu'un, ça arrive souvent que vous allez parler à quelqu'un du Seigneur. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'y pense pas tous les matins. Peut-être que c'est aussi le Saint-Esprit, je ne sais pas. Mais on devrait partir tous les jours avec l'idée, peut-être, qu'à un moment, je vais pouvoir témoigner tout simplement de ma foi à quelqu'un. Et ça serait chouette. Donc cette foi, à la base, incomplète, hein, va devenir exhaustive. Je pense qu'il va encore apprendre énormément de choses après. Mais cette foi complète va leur donner une joyeuse espérance et aussi l'envie de la communiquer à ce moment-là. Et c'est valable pour nous aujourd'hui, où en est notre foi? Est-ce qu'on connaît la parole de Dieu ou on ne connaît pas du tout, ou un peu, ou pas suffisamment en tout cas, pour que ma foi soit suffisamment forte dans l'épreuve, dans la difficulté, pour avancer? C'est là où on va voir, tout simplement. C'est là où on se remet en question. C'est là où on fait notre bilan, tout simplement. Pour terminer, on est souvent ces deux disciples. Hein. Vous avez vos chemins, j'ai mes chemins d'Emmaüs, où on a la tête baissée, on déprime parce que la vie fait des choses des fois curieuses, et on doute, et on se demande qu'est-ce que fait Dieu.
Il est où ?
Ça vous est jamais arrivé, ça ?
T'es où ?
Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu ne vas pas plus vite ? Hein ? On a nos doutes, comme ces monsieur. Mais Jésus nous montre ici les causes de ces doutes. C'est un manque de foi, tout simplement. Si je m'impatiente, c'est parce que je manque de foi. Ou parce que je ne crois pas que Jésus va s'occuper de moi. Et si ça dure encore plus longtemps, c'est parce que je n'ai pas appris la patience, tout simplement. Ma foi est impatiente et veut attendre, attendre, attendre. Il faut tout de suite. Bon, ça c'est la société qui le veut, mais pas avec Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Le manque de connaissance aussi va produire ces doutes dans notre foi. À nous maintenant, de connaître de mieux en mieux le Seigneur. On ne peut pas connaître le Seigneur d'un seul coup. Hein. Il faut un an pour lire la Bible, peut-être plus pour certains. Mais si je ne commence pas aujourd'hui, je recule à demain, et puis après-demain, et puis après-demain, et dans 10 ans, je me retrouve au même stade. Et après, j'ai déprimé, ma foi a fait des va-et-vient. Parfois, il y en a qui lâchent carrément. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous dit, ces doutes viennent d'un manque de connaissance de moi et de ma parole, tout simplement. Chercher Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous demande dans toute la Bible. Toute la Bible parle de Christ. Eh oui, et ça commence même en Genèse. Vous trouverez le passage dans le chapitre 3, si je me souviens bien. On parle déjà de Jésus sans le nommer. On parle de Jésus. Et découvrir sa personne, découvrir l'œuvre qu'il a fait et ce qu'il peut aussi faire pour chacun d'entre nous. Si vous connaissez quelqu'un mieux, comment sera votre relation avec lui ? Mieux, non ? On a connu notre épouse ou notre époux, au bout d'un an, on le connaissait. Bon, c'est là où on fait aussi, on est plus beau, on est plus joli. Hein, mais bon, c'est au bout de 40 ans de mariage qu'on comprend ce que c'est que le mariage déjà, et qu'on apprend à se découvrir les uns et les autres, la vraie personne. Hein. Mais c'est avec une relation quotidienne que l'on apprend cela. Vous ne découvrirez pas qui est l'autre si vous voyez une fois par an. Impossible. De toute façon, vous serez séparés, à mon avis. Hein. Mais c'est tous les jours que cette relation doit être avec le Seigneur, et c'est comme cela que je vais bâtir ma foi, consolider cette foi et connaître vraiment ce que le Seigneur veut pour moi. Et une foi complète va créer l'espérance, comme on l'a dit, et elle peut proclamer avec assurance que Jésus-Christ est ressuscité. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui laisse aussi ces mauvais exemples, entre guillemets, de ces deux disciples qui, là, étaient en train de déprimer parce qu'ils s'attendaient à autre chose de ta part, Seigneur. Ils avaient mal compris les Écritures. Est-ce qu'ils les avaient étudiées ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette fausse compréhension, ce manque de connaissances les avait attristés, désespérés. Et voilà, ils partaient tout simplement loin de Jérusalem pour revivre leur vie d'autrefois. Mais merci, Seigneur, parce que tu es plein de compassion et tu t'approches de nous d'une manière ou d'une autre. Et tu nous rappelles que tout se trouve dans la parole de Dieu. Que cette parole est christocentrique, que tout converge vers toi, vers ta personne, mais aussi vers ton sacrifice et vers cette résurrection, Seigneur, et ton futur retour aussi. Apprends-nous, Seigneur, à prendre le temps de lire cette parole, à nous forger de vraies convictions, à ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine et combien il y en a sur Internet aujourd'hui, Seigneur. Apprends-nous à retourner à la source et à nous faire plaisir dans cette lecture et même si on ne comprend pas toujours, donne-nous la force d'aller demander des explications dans des livres, au pasteur ou à quelqu'un d'autre, Seigneur, et nous puissions l'étudier et l'approfondir, cette connaissance, pour notre foi, pour une foi solide, une foi qui est prête à combattre, à traverser les épreuves, et une foi aussi qui te fera tout simplement plaisir. Nous voulons te louer ce matin et nous souvenir que tu es ressuscité, et nous voulons annoncer cela à quiconque veut bien l'entendre. Et nous prions en Jésus-Christ. Amen. Amen.